sociétés occidentales et qui ont exercé le plus d'influence, explique et justifie le commandement politique par sa cause efficiente. Ce sont les théories de la souveraineté. L'obéissance est un devoir parce qu'il existe et que nous sommes obligés de reconnaître un droit de commander en dernier ressort dans la société qui s'appelle souveraineté, droit de diriger les actions des membres de la société avec pouvoir de contraindre, droit auquel tous les particuliers sont obligés de se soumettre sans qu'aucun puisse résister. Citation de principe de droit politique écrit par Burlamaqui en 1751 à Amsterdam. Le pouvoir use de ce droit qui n'est pas généralement conçu comme lui appartenant. Non, ce droit qui transcende tous les droits particuliers, ce droit absolu et illimité ne saurait être la propriété d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Il suppose un titulaire assez auguste pour que nous nous laissions entièrement guider par lui, pour que nous ne puissions songer à marchander avec lui. Ce titulaire est Dieu, ou bien c'est la société. Nous le verrons, les systèmes qui passent pour les plus opposés, comme ceux du droit divin et de la souveraineté populaire, sont à la vérité branches d'un tronc commun, la notion de souveraineté, l'idée qu'il y a quelque part un droit auquel tous les autres cèdent. Derrière ce concept juridique, il n'est pas difficile de déceler un concept métaphysique. C'est qu'une volonté suprême ordonne et régit la communauté humaine, une volonté bonne par nature, et à quoi il serait coupable de s'opposer, volonté divine ou volonté générale. Du suprême souverain, Dieu ou la société, le pouvoir concret doit émaner, il doit incarner cette volonté. Dans la mesure où il réalise ces conditions, il est légitime. Et il peut, comme délégué ou mandataire, exercer le droit souverain. C'est ici que les systèmes, outre leur dualité quant à la nature du souverain, présentent une grande diversité. Comment, à qui et surtout dans quelle mesure sera communiqué le droit de commander? Par qui et comment l'exercice en sera-t-il surveillé, de façon que le mandataire ne trahisse pas l'intention du souverain? Quand pourra-t-on, à quel signe reconnaîtra-t-on que le pouvoir infidèle perd sa légitimité et que, ramené à l'état de simple fait, il ne peut plus arguer d'un droit transcendant? Nous ne pourrons pas entrer dans de si grands détails. Ce qui nous occupe ici, c'est l'influence psychologique de ces doctrines, la façon dont elles ont affecté les croyances humaines quant au pouvoir et par suite l'attitude humaine à l'égard du pouvoir. Finalement, l'étendue du pouvoir. Ont-elles discipliné le pouvoir en l'obligeant de rester soumis à une entité bienfaisante? L'ont-elles canalisé en instituant des moyens de contrôle capables de nécessiter sa fidélité? L'ont-elles limité en restreignant la part du droit souverain qu'il lui était permis d'exercer? Bien des auteurs de théorie de la souveraineté ont eu l'un ou l'autre de ces desseins. Mais il n'est aucune d'elles qui, enfin, lentement ou rapidement détournée de son intention première, n'ait renforcé le pouvoir en lui fournissant la puissante assistance d'un souverain invisible auquel il tendait et réussissait à s'identifier. La théorie de la souveraineté divine a conduit à la monarchie absolue. La théorie de la souveraineté populaire conduit à la souveraineté parlementaire d'abord et enfin à l'absolutisme plébiscitaire. Et je continuerai le mois prochain avec la suite, la souveraineté divine.
Merci Elsa. Donc là, nous allons terminer l'émission et je vais vous envoyer une émission enregistrée de jazz que Yves m'a envoyée. Parce que aujourd'hui, comme il vient de province, il n'est pas sûr d'arriver. Alors, il m'a envoyé une émission que je vais vous diffuser maintenant. C'est pour ça que je ne vous passe pas le générique de Idistibis Passem. En vous remerciant d'avoir écouté nos textes un peu longs, mais très très importants au niveau politique et au niveau environnemental. Voilà.
Oui.
Merci Elsa, ce beau texte.
Et merci à toi aussi, papa.
Voilà. Et la semaine prochaine, il y aura peut-être Bernard qui vous présentera une émission. Voilà, avec Pedro qui sera à ma place à la technique.
Entendu.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Et lâchez pas la patate.
Surtout pas.
C'est Jazz Libre sur Radio Libertaire 89.4. Et oui, nous avons bravé absolument tous les dangers, et il y en a beaucoup. D'abord la pluie, d'abord le froid, les rigueurs de l'hiver, bref, le fascisme ambiant. Et pour finir, évidemment, le virus. Mais nous sommes en direct en studio pour une session de Jazz Libre. C'est parti pour 2h30. Je vous rappelle, numéro de studio 01 43 71 89 40, 01 43 71 89 40. Vous pouvez, vous devez même nous aider à sauvegarder cette radio en téléchargeant la souscription ou en allant dans la journée avant 18h, hélas, à Publico pour souscrire et nous aider pour remplacer le matériel et maintenir nos émissions de qualité. Voilà. Alors, bien malgré l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, nous devions normalement ce soir avoir un invité qui était prévu. Il s'agissait de Thierry Maillard, celui qui a fait un double album assez original en hommage à Frank Zappa. Nous avons conclu avec l'attaché de presse que c'était pas possible pour l'instant, et donc ce n'est que partie remise, en espérant que le pouvoir en place et celui des toubibs ne va pas nous reconfiner encore pour une troisième mi-temps qu'il serait plutôt très très malvenu eu égard à la faillite, je dirais, de la culture, de la musique en général et du jazz en particulier, où là vraiment nous sommes au fond du trou. Et donc Radio Libertaire, nous essayons tant bien que mal, de vous procurer un petit peu de plaisir, un petit peu de bonheur. Voilà, 2h30 tous les 15 jours. Eh bien, écoutez, ce sera toujours ça de prix. Alors, encore une fois, je ne voulais pas faire de nécro, mais malheureusement, nous avons eu deux disparitions de grands musiciens. Le premier, c'est Junior Mans, l'immense Junior Mans, pianiste. Bon, alors il avait 92 ans, je dirais qu'il y a une certaine logique, une vie bien remplie, une discographie assez importante. Je vous en parle deux minutes. Il était donc né le 10 octobre 1928 et il nous a quittés le 17 juin dernier. Il s'appelait Julian Clifford Mans Jr. Voilà. Il est né à Evanston dans l'Illinois et il a commencé le piano à 5 ans. Et donc, voilà, il a commencé par jouer du piano stride, du boogie-woogie, j'allais dire un petit peu comme tout le monde. Et alors, c'est un pianiste qui est peu connu du grand public, malheureusement, parce que, en fait, c'est un musicien qui a une discographie absolument incroyable, mais vraiment, vraiment incroyable. Nous allons écouter quelques extraits, parce que ça vaut vraiment le coup. Je voulais vous en parlez depuis longtemps, mais donc il a enregistré sous son nom plus d'une cinquantaine d'albums, et il en a enregistré à peu près la moitié en live, comme on dit, d'ailleurs c'est ce que nous allons écouter tout à l'heure, et il a enregistré avec Cannonball Adderley, avec Nat son frère, avec Jen Ammons, avec Art Blackie, avec Clifford Brown, avec Benny Carter, avec Arnett Cobb, avec Harry Sweet Edison, avec Aretha Franklin, avec Dizzy Gillespie. Bon, vous voyez, en fait, il a enregistré absolument avec tout le monde. C'est un pianiste peu connu. Moi, je fais partie de cette génération qui a appris auprès de la génération précédente. Donc évidemment, Junior Mans ne m'était pas du tout inconnu. Et j'ai ressorti pour l'occasion mon vieux vinyle qui va un petit peu cracouiller, qui est son premier album en 1959 au Village Vanguard, qui est son premier album, et premier album en public, mais... non, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise, ça commence. C'est son premier album en public au Village Vanguard en 1961. Et donc, je vous désannoncerai les titres tout à l'heure. Nous allons écouter... on va se faire plaisir, on va écouter la face A entière de cet album. C'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Donc alors, il s'agit donc du Junior Mans Trio, hommage à Junior Mans qui nous a quittés le 17 janvier dernier. Et c'était au Village Vanguard en 1962, avec Larry Gels à la contrebasse et Ben Riley à la batterie. Alors curieusement, c'est une rythmique qu'on retrouve chez Thelonious Monk, hein, comme quoi Junior Mans était déjà bien bien adoubé à ce moment-là. Alors la mère de Junior Mans l'a encouragé à faire des études de médecine, mais... il voulait en fait faire de la musique, mais il pensait que le jazz était interdit à la faculté. Du coup, bon voilà, ça s'est pas très bien passé. Et puis il va commencer à jouer avec Jenna Mons en 47 à Chicago, et il va enregistrer, faire un disque le 23 septembre pour Aladdin Records, qui a notamment beaucoup enregistré Lester Young. Et ensuite, ils sont partis à New York pour une semaine. Et sur la suite de ça, Lester Young devait jouer au Congo Lounge à Chicago. Et le pianiste de Lester Young, qui s'appelait Bud Powell, qui était très jeune, a loupé son avion. Et donc, Lester Young a demandé à Junior Mans de le remplacer. Et de devenir son pianiste régulier. Donc, bon, le coup du destin, hein, il suffit de rater son avion et voilà, pof, on joue avec les plus grands musiciens du monde. Donc en plus, John Hammond, il avait été en plus, comment dire, approché pour remplacer Stan Getz dans l'orchestre de Woody Herman. Donc il était très content aussi que Junior Mans s'en aille, et que finalement Junior Mans va enregistrer avec Lester Young, pardon, pour Savoy Records. Et il va enregistrer cette année-là avec il va réembaucher son ancien patron, donc Amant, et puis il va faire venir aussi l'altiste Sonny Stitt pour le label Prestige. Voilà, en 1951, il est appelé appelé au service militaire de 47 à 53, et donc en 51, juste quelques deux semaines avant qu'il parte dans le conflit de la Corée, pour s'entraîner, c'est Cannonball Adderley qui l'a aidé à rester dans l'orchestre de la 36e armée à Fort Knox. Vous savez que l'armée américaine, comme dans tous les corps d'armée, c'est-à-dire terre, air et marine, ont des musiciens, ont des orchestres, des orchestres absolument incroyables. J'en ai passé sur ma page Facebook. Hein. D'ailleurs, je rappelle Yves Jazzlib sur ma page Facebook. N'hésitez pas. Hein, je mets beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et notamment sur la radio et les podcasts également. Plus les playlists, et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à dk51@sfr.fr. Donc, Cannonball Adderley lui sauve vraiment la mise, c'est le moins qu'on puisse dire, là, ça nous aurait vraiment privé d'un magnifique musicien. Et il est réformé en 53, et il va partir à Chicago, et il va avoir comme section rythmique Israel Crosby, qu'on va retrouver avec le pianiste, ça va me revenir, ne vous inquiétez pas, très célèbre, qui est encore vivant d'ailleurs. Et Buddy Smith à la batterie. Il va également jouer derrière des musiciens comme Charlie Parker, Coleman Hawkins, Eddie Lockjaw Davis et Sonny Stitt soi-même. Voilà, on écoute. Donc le premier thème que nous avons écouté s'appelait Loop Town, et le deuxième s'appelait Letter from Home, et nous allons maintenant enchaîner avec Girl of My Dream, la fille de mes rêves. Et ben voilà, elle n'est pas dans le studio, je vous le confirme, et cela non, c'est pas toi, Laurent. Je suis désolé. C'est pas mon obédience préférée. Bon, j'ai rien contre, hein, mais bon, moi, ça me plaît pas. Et donc, 60e, le thème de la 63e rue. Voilà. Ça a été enregistré donc en février le 22 et le 23 61. Donc, voilà. C'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Donc il s'agit d'un hommage à Junior Mans qui nous a quittés à l'âge respectable de 92 années. Et donc on termine sur le thème de la 63e rue qui a été composé par le ténor Johnny Griffin. Il y avait donc Ben Riley à la batterie et Larry Gels à la contrebasse qu'on retrouve souvent dans chez Thelonious Monk. Alors, on continue un petit peu sur le parcours. Il faut rappeler quand même qu'il a à peu près un peu plus de 80 albums à son actif, ce qui est vraiment incroyable. Hein. Son dernier enregistrement date de 2015, c'est-à-dire qu'il y a 6 ans, il enregistrait encore. Et donc, musicien peu connu, et bien dommage parce que prolixe, doué... rempli de blues et de soul, hein. On l'entend vraiment, c'est le pianiste qui est influencé par le blues complètement et puis qui a travaillé sur les pianistes modernes de son époque, Bud Powell arrivant, et etc., etc. Et à la fin, ça reste un pianiste extrêmement lyrique et extrêmement chantant. Alors, Charlie Parker l'encourage à partir à New York. Et puis, après avoir un tout petit peu économisé, il va passer pas loin d'un an au Beehive. Et en 54, il va enregistrer avec la chanteuse Dinah Washington, après que Wynton Kelly soit parti du groupe de Dinah Washington. Et donc, ils vont enregistrer dans le label MRC. Et Junior Mans va en même temps se perfectionner sur la technique d'accompagnement et des arrangements de l'arrangeur de Dinah qui s'appelle Jimmy Jones. Et donc, en 1954, ils vont enregistrer avec Clifford Brown, Clark Terry, Menard Ferguson, Herb Geller, Harold Land, Richie Powell, Keeter Betts et George Moreau et Max Roach, évidemment, qui formeront notamment le quintet de Max Roach, Clifford Brown, avec les mêmes musiciens. En 56, il va rejoindre Cannonball Adderley qui, Cannonball, va être démobilisé. Ça va être son premier groupe dans la vie civile avec Sam Jones à la contrebasse et Jimmy Cobb à la batterie qu'on retrouvera évidemment dans le quintet de Miles Kind of Blue. Quand je vous dis que tout est dans tout et inversement, j'espère que vous me croyez maintenant, je suis obsessionnel sur sur l'idée que tout le monde a joué avec tout le monde et que c'est pas un hasard. Et donc, Dinah Washington va justement louer le groupe de Cannonball pour enregistrer et également des sessions avec Johnny Griffin, James Moody, Wilbur Ware, voilà, sur Riverside notamment, ce label très connu qui a été prolixe pour Cannonball. D'ailleurs, le dernier disque de Riverside avant faillite, c'était le live à Comblain-la-Tour de Cannonball Adderley avec Youssef Latif. Un absolument magnifique album à se procurer d'urgence si vous ne l'avez pas. Bien, alors, il va commencer sa carrière de leader en 59 et il va rencontrer Norman Granz, le fondateur du label Verve, évidemment, qui va avoir vraiment une foultitude de musiciens absolument hallucinants. Et il va commencer à faire des sessions avec Dizzy Gillespie, avec Ray Brown, avec Lex Humphries. Lex Humphries qu'on va retrouver dans le quintet d'Art Farmer, ou les tout débuts de McCoy Tyner, notamment dans la très belle version de Killer Joe. Voilà, il va enregistrer également avec Eddie Lockjaw Davis, avec Johnny Griffin. À partir de 64-65, il va aller chez Capitol et Atlantic et il va faire des sessions avec l'altiste Benny Carter. Et ils vont aussi même participer à quelques sets avec Ornette Coleman au Five Spot. Donc voilà, c'est un musicien totalement éclectique. Et donc, il va enregistrer comme ça un certain nombre d'albums jusqu'à la fin de sa vie. Et il va enseigner à la New School of Jazz Contemporary Music pendant 23 ans. Et il aura évidemment comme élève des musiciens aussi célèbres que Brad Meldow et le magnifique pianiste et organiste Larry Goldings que je vous avais fait connaître notamment dans certains disques de Pat Martino. Il va de 90 à 2009 participer à un groupe qui s'appelle les 100 doigts d'or ou dorés. où il va tourner au Japon tous les ans. Et en fait, c'est un all-star de pianistes, puisqu'on va retrouver la pianiste Toshiko Akiyoshi, qui a été la femme de Charlie Mariano, Monty Alexander, évidemment, Jerry Allen, qui nous a quitté il y a peu, Lynn Arial, Kenny Barron, magnifique, Johan Brackin, que je vous ai également fait découvrir, Ray Bryant, Bill Charlap, excellent pianiste aussi, Cyrus Chestnut, que nous avons entendu pour les chants de Noël, Gerald Clayton, tout jeune et excellent, long pianiste qui avait joué avec Roy Hargrove, Joao Donato, Tommy Flanagan, magnifique Tony, Don Friedman, nous ne l'avons pas assez ici, Benny Green, Barry Harris, génial aussi, Jen Harris, Hank Jones, le magnifique Hank Jones, Duke Jordan, Roger Calaway, John Lewis, Harold Mabern, Deb McKenna, Marianne McPartland, magnifique Marianne, avec laquelle j'ai entretenu une petite correspondance, Mulgrew Miller, Dado Moroni, magnifique Dado Moroni aussi, Odd O'Brien, Eric Reed, très très bon pianiste, Ted Rosenthal, René Rohn, alors je vais le faire à l'anglaise, René Rosnes, qui est canadienne, magnifique pianiste, une magnifique pianiste, Mal Valdron évidemment, Cédar Valton, James Williams et Chihiro Yamanaka, avec comme bassiste Bob Cranshaw, qui a laissé sa basse électrique pour une vraie contrebasse, puisque la basse électrique, il la faisait chez Sonny Rollins, hélas, et Alan Dawson, ou Grady Tate à la batterie, Alan Dawson étant le remplaçant de Joe Morello dans le quartet de Dave Brubeck. Je pense que vous savez tout. Eh bien, puisque nous finissons notre hommage à Junior Mans, je vous propose un album absolument décoiffant dans le quintet de Cannonball à Derley qui s'appelle At Newport, qui est difficile à trouver. Je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué. Donc, tous à vos cassettes ou à vos clés USB. Et donc, ça s'appelle At Newport, et c'est de 1957, avec Cannonball Adderley à l'alto, son frère Nat au cornet, Junior donc Mans au piano, Sam Jones à la contrebasse et Jimmy Cobb, le fameux Jimmy Cobb à la batterie. Et on va commencer par un thème qui s'appelle Hurricane Connie de Sam Jones. C'est parti. Thank you. Vous êtes bien chez Radio Libertaire, vous êtes en particulier avec Jazz Lib et c'est en direct des studios, voilà. Alors, vous venez d'écouter donc le deuxième thème qui s'appelait We Dot et alors, ce qui est quand même curieux, c'est que ce quintet de Cannonball est quand même plutôt réjouissant, c'est le moins qu'on puisse dire. De toute façon, Cannonball, ça a toujours été réjouissant. Finalement, le groupe va arrêter parce qu'il y aura un manque d'engagement, ce qui est quand même complètement hallucinant. Et donc, Cannonball Adderley va partir dans le sextet de Miles Davis. Hein, on sait ce que ça va donner, l'histoire à parler. Et Junior Mance, lui, va partir chez Dizzy Gillespie en remplacement de Wynton Kelly, qui, évidemment, Wynton ira dans le sextet de Miles. Voilà. Et donc, il va accompagner Dizzy Gillespie et Louis Armstrong également pendant un certain nombre de temps, notamment dans... des prestations de la télévision, je crois, en 1959. Voilà. Alors, pour terminer, Junior Mance et sa femme Gloria vont créer un label un label pour eux qui s'appelle Junglo en 2007. Et donc, il va enregistrer en public au Café Lou. Avec une section rythmique qui va rester fidèle jusqu'à la fin de ses jours, avec Hide Tanaka à la contrebasse, Jackie Williams à la batterie et Josie James au chant. Et puis, il va faire venir la très jolie batteuse Kim Gary, qui remplacera donc Williams, et il va s'adjoindre deux saxophonistes, un ténor Ryan Anselmi et un baryton Andrew Adro. Voilà. Et ils vont tourner comme ça au Japon, en Italie, en Israël pendant pas mal de temps. Il va même faire venir à la toute fin une violoniste qui s'appelle Michi Fuji, qui est une étudiante de sa nouvelle école. Et donc, voilà, ils vont continuer jusqu'en 2016. Et puis en 2016, il va prendre une retraite bien méritée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'était une très très belle carrière, un magnifique jazzman. Bon, évidemment, c'est toujours triste de voir une telle bibliothèque et discothèque s'éteindre. Mais bon, voilà, nous essaierons de nous inspirer de son travail et de faire vivre sa musique tant que moi-même, je serai encore les deux pieds sur cette planète. Et donc, on va terminer par un thème de George Gershwin qui s'appelle « A Foggy Day ». Bon, « Foggy Day », c'est un jour brumeux, brouillardeux. Ben, c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est un jour de pluie, un temps de chien. Voilà, c'est parti, Laurent. Jazz Lib, Radio Libertaire 89.4, et voilà, il s'agissait donc de notre hommage à Junior Mans, qui nous a quittés le 17 janvier dernier. Alors maintenant, hommage à un autre musicien qui lui est mort plus tôt, puisqu'il avait 79 ans. Il s'agit de Howard Johnson, Howard Lewis Johnson, de son vrai nom, qui est né un 7 août 41. Et qui est donc nous a quitté le 11 janvier dernier. Voilà, donc c'est un musicien qui pas connu non plus du tout du grand public, et pourtant il a à peu près une soixantaine d'albums à son actif. Alors c'est là où c'est rigolo, c'est que il a 4 albums en tant que leader, mais tout le reste c'est avec des musiciens. Et quel musicien prestigieux! Alors, il faut quand même savoir qu'il a Je vous donne quelques noms comme ça, parce qu'évidemment, il y en a plein d'autres, mais il a joué, été engagé pour jouer avec Charlie Mingus, avec Archie Shepp, avec Gary Burton sur ce fameux disque Jin Yun Tong Funeral que nous avions passé il y a peu de temps, ici même. Évidemment, dans ce magnifique disque Libération Music Orchestra de Charlie Aden avec Gato Barbieri, Dewey Redman, etc., etc., avec également cette grande aventure qui a été la JCOA, c'est-à-dire la Jazz Composer Orchestra, et puis évidemment les faces absolument magnifiques que nous écouterons tout à l'heure avec Gil Evans, à ne pas confondre avec Bill, le Gil Evans Orchestra. Qui a produit évidemment des pépites absolument sublimes. Il a joué avec Pharoah Sanders, avec Andrew Hill, le pianiste, avec le chanteur Léon Thomas, avec Taj Mahal aussi, le guitariste, avec Charles Tolliver, que nous avons écouté la dernière fois, avec Carl Abley, dans ce monument absolument incroyable dont je me suis promis de faire une émission spéciale un jour sur ce monument qui s'appelle Escalator Over the Hill, avec des musiciens aussi différents que le bassiste des Crimes, et puis nous y reviendrons. Il a même enregistré avec John Lennon, avec Sam Rivers, avec Gato Barbieri, avec Jaco Pastorius dans ce magnifique album Word of Mouth, du bouche à oreille, qui est absolument somptueux, dont nous avions passé aussi des extraits, avec le bluesman Muddy Waters, avec Dexter Gordon, enfin vous voyez, c'est absolument incroyable,